On va enchaîner maintenant avec une succession de communications. Il y aura trois communications qui vont être animées par Laurence Ramos. On aura donc Didier Kelvin, Philippe Gonin et Olivier Miglior. Et donc, on en a pour une heure jusqu'à midi moins cinq. Laurence, je te laisse la parole.
Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif cœur du sujet des origines du punk à Lyon. Nous allons commencer par Didier Kelvin, qui va nous parler du punk à Lyon en 77-78 avec des expériences assez particulières, on va dire. Je te laisse te présenter, Didier.
Bonjour. Merci à Philippe de m'avoir invité. Alors, j'ai une très très forte envie de pisser, donc je vais essayer d'aller assez vite. Et je vais mettre mes lunettes parce que si je faisais un groupe maintenant, j'appellerais les presbytes, ce qui serait une bonne idée. Voilà, donc je vais. En fait, j'aime pas beaucoup lire parce que d'habitude, je trouve ça assez pénible les gens qui lisent. Mais vraiment, j'ai des choses précises à dire qui vont peut-être pas faire consensus. Et du coup, je préfère les dire dans les termes que j'ai décidé quand j'étais tout seul devant mon ordinateur. Et il y aura quelques images quand même, puisque j'ai la chance inouïe, en ayant parlé de ça à mon frère d'âme, qui est Dominique, à qui je rends hommage et que vous verrez sur les images, qui était le guitariste du groupe dans lequel j'étais. Il m'a caché pendant 40 ans qu'il avait gardé des tas d'archives, alors que moi j'avais fait une sorte de, comment dire, de vœu de ne rien garder. Et lui, il m'a tout envoyé il y a en 3 jours. Et il y avait des WeTransfer qui arrivaient. Et je me suis dit, le salopard, il m'avait caché qu'il était nostalgique de cette période. Alors, je vais tout de suite commencer à parler un petit peu avant de montrer des images. D'abord, j'ai longtemps été réticent, et même plus que ça, puisque j'ai parfois dit des choses assez désagréables sur le Pind, à venir parler dans un cadre universitaire du punk. Alors, j'ai rien contre l'université, parce que moi, je suis universitaire, mais dans les sciences de la vie, je fais de la biochimie, de la physiologie, donc tout ce que je pourrais dire ici n'a rien à voir avec, l'envie de pisser, si c'est de la physio. Donc c'est simplement parce que j'ai été punk pendant, on va dire, de fin 76 à début 78, parce que pour moi, je fais partie de ces intégristes qui considèrent que le punk, dans son acception initiale, s'est arrêté. Alors peut-être pas la disparition des Sex Pistols, mais en tout cas, début 78, l'affaire était pliée. Alors pourquoi cette réticence? Moi, j'ai pensé à Georges Bataille qui disait que dans l'érotisme, quand on commence à l'analyser de manière froide et neutre, il se dérobe et il disparaît. Alors le punk, c'est un peu comme ça. Vous voyez. Je trouve qu'à partir du moment où on en parle, il y a quelque chose de son âme qui s'en va. Alors même, c'est même pas le fait quand on l'a vécu qu'on peut le retrouver, c'est quand on le vit. Même quand on l'a vécu, je m'aperçois bien maintenant, quand j'ai vu les documents, je me suis dit, ah oui, je revois l'atmosphère, mais je l'avais complètement oublié, cette atmosphère. Alors je vais encore faire de la citation qui vaut ce qu'elle vaut, mais je sais pas si vous avez vu dans la dernière conférence de presse par smartphone de Jean-Luc Godard à Cannes, qui était assez exceptionnel. Il a dit que lui, il essayait de, que le cinéma essayait de montrer ce qui se faisait, que lui, il voulait montrer ce qui se faisait pas. Alors moi, je viens vous parler de quelque chose qui s'est pas fait. Donc du coup, je suis bien dans la ligne, puisque je vais vous parler d'une tentative de créer un label qui s'appelait Nouveau Rock, Nouvelle Scène, et qui a été une espèce d'idée personnelle qui finalement s'est rapidement effondré devant finalement le peu d'enthousiasme que j'ai rencontré des groupes punk de l'époque. Donc par ailleurs, mon idée quand j'ai écrit le texte, c'est de dire qu'en fait il n'y a pas vraiment eu de mouvement punk à Lyon. Hein. C'est comme Jean Baudrillard, le mouvement punk à Lyon n'a pas existé. C'est-à-dire que pour moi, pour qu'il y ait punk, il y a au moins 3 facteurs. Je vais faire comme je fais dans mes cours. Hein, voilà. Alors le premier facteur qu'il faut, d'abord une vraie envie d'indépendance forcenée par rapport à l'industrie culturelle, hein, plus que du disque. Et même si cette envie passe par une phase, vous savez, de collaboration, qu'on va subvertir, bilan des courses, ils ont tous collaboré, personne n'a rien subverti, ils se sont tous fait avoir. Bon. Alors, comme nous qui n'avons pas voulu collaborer, on s'est fait avoir aussi, parce que ça s'est terminé dans le néant. Alors, il faut aussi dire que le deuxième, c'est le refus de tout statut de vedette ou de rockstar, qu'elle soit dandy, rock'n'roll, etc. Alors, ça m'a toujours amené à dire, et je voudrais quand même dire que j'ai parlé de ça avec Mark Perry pendant de nombreuses heures et que je communique toujours avec lui, c'est le fondateur Sniffing Glue et du meilleur groupe punk à mon sens, c'est Alternative TV, et qu'il a toujours été d'accord avec moi en fait, ou j'ai été d'accord avec lui, enfin bref, on était d'accord. Pour dire par exemple qu'un groupe comme Clash n'a jamais été punk. Quand j'ai dit ça à une dernière, une espèce de petite table ronde, je me suis fait huer, ben, je persisterai et peut-être ça sera mes derniers mots. Clash n'a jamais été punk. Bon. The Fall était punk, oui, mais pas Clash. Clash était un groupe de rock, point très. À l'époque, on n'était pas dupes, d'ailleurs. Et ensuite, la dernière chose, c'est qu'il faut, il faut vraiment proposer une alternative en termes de musique, c'est-à-dire qu'il faut faire une création, il ne faut pas faire du recyclage. Or, le problème à Lyon, c'est que tous les groupes étaient dans le recyclage. Ils avaient tous un groupe fétiche dont ils reprenaient les plans et qu'ils reproduisaient. Et il n'y avait pas... Alors nous, on n'y a pas vraiment échappé au début... Et on n'a pas été bien bons, et on faisait du Buzzcocks, du Sex Pistols, etc., et on ne proposait pas grand-chose de bien nouveau. Voilà, donc ces trois... je me souviens d'un festival punk où j'ai entendu de trois groupes différents, trois versions d'I Wanna Be Your Dog, des Stooges. Au bout d'un moment, je disais, ça suffit, ils veulent être le I Wanna Be Your Dog, et peut-être autre chose. Alors avant, je voudrais parler de ce groupe-là qui s'appelle Suzy B, enfin qui s'appelait Suzy Bell. Alors je vais vous montrer tout de suite la première session photo qu'on a fait. Donc c'est moi avec les lunettes. À gauche, c'est Dominique, dont je vous parle, qui était le guitariste. Et puis Suzy, qui ne s'appelait pas Suzy, qui s'appelait Joss, qui était derrière, là. Donc vous voyez, féminisation. Je voulais absolument que le groupe soit très, au moins dans le nom, et au moins une présence de féminine. Pardon ? Le pull est beau, oui. Alors ça, c'était notre batteur, qui était un fan de Bowie, et qui était effectivement... un type assez spécial, mais alors ce groupe a été formé. En fait, on a découvert le punk avec Dominique le même jour, à la même heure, au même endroit. C'était dans une cabine de la Fnac où on nous laissait écouter des disques. Et le vendeur a dit tenez, j'ai une merde pour vous. Et avec vos good shots, je suis sûr que vous allez aimer. Il nous a passé un Archie Nyoka, évidemment. On a acheté chacun un exemplaire. Et moi, j'ai revendu ma discothèque complète quelques semaines plus tard pour acheter tout ce qui sortait en punk, si bien que effectivement, j'ai beaucoup de 45 tours punk. Et quand je mourrai, je donnerai ça à Pin, s'ils veulent. Voilà. Donc, on a formé un groupe très, très rapidement. On a pris deux personnes dont on pensait que esthétiquement, elles conviendraient bien. Bien sûr, Joss n'avait jamais joué de basse et Pierre n'avait jamais joué de batterie. Ils ont découvert leur instrument après avoir été recrutés. Ça posait pas vraiment de problème puisque Wire s'est distribué les instruments un jour en décidant on va faire un groupe qui veut jouer de la batterie. Il levait les mains et tout. Et donc ça donnait quelque chose. La même séance, c'était donc cette photo aussi qui était un peu plus sérieuse. Et on a eu rapidement de la presse. Étonnamment, on a eu de la presse avant même de jouer. Puisque là, on a eu un papier dans, je sais pas, c'était Rock News. On n'avait encore jamais joué. Hein. Donc, d'ailleurs, alors Dominique était un guitariste très talentueux, toujours été, il est encore. Moi, je chantais médiocrement. Et derrière, ben, Joss, quand ils ont vu le journal, ils ont dit on va peut-être s'y mettre parce que franchement, ça urge. Et on a même eu Lyon Poche, je crois, là-haut, Suzy Bell. Parce qu'à l'époque, on s'appelait Suzy Bell. Puis quand Joss est parti, on s'est appelé Suzy B. Alors j'avais décidé de prendre un nom, c'était pas avec un Y d'ailleurs, un nom féminin, parce qu'à l'époque, beaucoup de groupes punk avaient des noms, les pistolets de sec, les couilles vrombissantes. Alors je lui ai dit, ça suffit, quoi. On va prendre un truc joli, voilà. Même si la musique n'était pas très jolie. Après, alors ça, c'est une image de moi, voilà. Bah, évidemment, les années sont passées dessus, hein, donc il ne reste plus grand-chose. Après, on s'est, donc, quand les deux sont partis, on a reformé avec deux autres garçons qui jouaient pas plus de leur instrument que les premiers. Hein, donc, et c'était notre première photo shooting, on va dire, qui est devenue après rapidement des affiches. Alors là, on avait pensé faire un 45 tours et il y aurait eu ça derrière. Moi, je suce une télé. Bon. En fait, j'étais très conceptuel. Alors, c'était les quatre façons d'être, le beau mec, le suicidaire, le féministe et le mec qui suce une télé. Et voilà, donc c'était les affiches qui étaient sur les murs de Lyon. Personne ne s'en souvient, mais il y en avait quand même pas mal. Et on avait écrit, c'est Dominique qui avait écrit avec cette jolie calligraphie. Voilà. Et puis ensuite, on a même fait une séance d'enregistrement dans un studio où on aurait dû sortir le 45 tours. Donc là, c'est Il m'a dit hier que c'était à Bron, dans une fac. J'ai plus de souvenirs. Et il m'a même envoyé ce matin, vous voyez, c'est tout récent, il m'a envoyé ce matin les bandes, car je les pensais totalement disparues. Et je me suis réentendu chanter, et j'ai entendu le groupe, et je me suis dit, ah, c'était quand même moins nul que je pensais, parce que vraiment, j'avais un souvenir qu'on était quand même assez mauvais. En public, ça allait, parce que franchement, c'était assez violent, mais du coup, on faisait passer la mauvaise qualité par de la violence. Mais sur le plan, quand on était en studio, je trouvais pas ça terrible. Alors, je vais vous montrer quelques images de concerts qu'il m'a envoyé aussi, qui sont des concerts différents les uns des autres, d'ailleurs. Voilà, un autre. Voyez, alors, l'atmosphère n'était pas Star Shooter, vous voyez. Hein, c'était, moi, je visais plutôt Joy Division. Voilà. C'était relativement sombre. Voilà les images. Et là, je vais arriver donc à Nouveau Rock, Nouvelle Scène, qui est... Alors, vous voyez des noms dont on parle jamais, et pourtant, c'était théoriquement les noms qui auraient dû se trouver sur les premières productions de ce label. Il y avait donc Gigolo. Nous, l'écriture est mauvaise. Je crois que j'avais vraiment engueulé l'imprimeur en disant « c'est pas possible ». C'était bien marqué « IE » sur le document. Ben voilà. Un groupe qui s'appelait Raison Pure, qui était excellent, lui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaissait Raison Pure. C'était très wire. Mais alors, j'ai même retrouvé le chanteur à Paris une fois. Et c'était vraiment... Je crois même que j'avais plus envie de faire le label pour les enregistrer, eux, que nous, parce que je les trouvais plutôt meilleurs. Un groupe s'appelait Toxibose. J'ai plus de souvenirs. Langage. Et ce jour du concert et du festival est venu un groupe qui était une espèce de plagiat assez pathétique de bijoux qui s'appelait Diamant. Bon, je vous assure, quand on les a vus monter, on avait voulu les faire descendre en disant « vous allez gâcher la soirée », mais ils sont restés quand même. Voilà. Donc, ensuite, ça, c'est une image, la seule image que j'ai de ce Nouveau Rock, Nouvelle Scène. Alors, on est en 80, là, déjà, hein, donc les looks ont déjà changé. Et je crois que l'image suivante, c'est moi aussi, pris de face. Voilà. Voilà, c'est moi. Ben oui, je sais, 40 ans quand même, hein, j'y peux rien. Voilà, donc là, c'était à Chaponneau. Alors, on avait, nous, notre... parce que vous parlez du punk à Lyon, mais il y avait le punk à Chaponneau qui mériterait un pin entier. Chaponneau, qui n'est pas connu pour sa zone. Hein, je crois qu'ils n'ont pas eu d'immigrés depuis la création de Chaponneau. En fait. Et donc, ils sont vrais. Et ben là-bas, on avait une sorte de refuge, la salle Henri Bastia. On a fait pas mal de... Ils nous laissaient toutes... Et là, le dernier concert qu'on a fait en 80 avant de se séparer, c'est ça. Vous voyez, j'ai essayé de la mettre parce que le look avait changé quand même. On sentait venir le New Wave, sauf que nous, on n'a jamais fait de New Wave du tout. J'ai toujours exécré ça. Et j'ai passé d'ailleurs des fin des années 80 assez pénible jusqu'à ce que je découvre Sonic Youth et autres, où je me suis dit, enfin, la musique revient. Parce qu'autrement, c'était assez pénible. Voilà, donc après, ben, qu'est-ce que c'est devenu ? Ben, après, moi, j'ai fait comme beaucoup, comme Marie. On avait une émission qui était les unes derrière les autres. Je suis rentré à Radio Bellevue jusqu'en 85 et j'ai fait plusieurs émissions. Et donc cet après-midi, je crois que je suis à la table ronde. Et là, c'est moi. Alors les cheveux ont poussé un peu. Et une émission et le groupe était séparé. Voilà, donc je vous ai montré tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On a manqué quand même un moment. On a parlé de la salle Molière. Les Cramps sont passés à la salle Molière le 30 mars 80 et on devait faire la première partie. Autant vous dire que pour nous, on pensait que c'était le début de la gloire. Et puis au dernier moment, la veille, on nous a dit que c'était pas nous. Et franchement, ça a été un gros coup quand même. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'était Nouveau Rock, Nouvelle Scène ? J'ai encore quelques minutes. Voilà. Bon, c'était en fait une idée de fédérer les groupes qui n'avaient pas encore... qui avait encore résisté aux sirènes des labels. Alors peu avaient résisté d'ailleurs, parce que donc Star Shooter et Electricalas étaient allés chez Emi Paté Marconi. Il y avait que Marie les Garçons qui avait signé avec Rebel Records, qui était un label indépendant. Et puis les autres derrière, en fait, je me suis aperçu qu'ils avaient tous envie, ils attendaient le grand ponte, le A et R d'une majeure qui vienne leur dire qu'ils étaient les futurs stars. Donc moi, avec mon label qui était basé sur Stiff Records, d'ailleurs c'est drôle parce que Stiff, ça veut dire raid comme une érection ou ça veut dire échec. Bon, donc j'avais déjà bien choisi mes références. Et puis, ou Step Forward, que je préférais encore, Step Forward, qui était le label qui a été monté par Mark Perry et Miles Copeland. Et je me disais, on va faire un Step Forward à la lyonnaise, et de manière de fédérer tous ces groupes-là. Pour l'instant, je pensais qu'ils étaient tous assez médiocres, mais qu'ils ils évolueraient, ils trouveraient leur personnalité, et on finirait par avoir un label avec des groupes locaux qui seraient intéressants. Bon. Alors en fait, la création de Nouveau Rock Nouvelle Scène, c'était ce festival. Après, je me souviens d'une séance assez pénible dans un café lyonnais où les punks se réunissaient, où j'allais assez peu, parce que moi, en même temps, je faisais des études de médecine. Autant vous dire que j'avais pas trop le temps. Je ne vais pas dépasser du tout. Et du coup, et je leur ai annoncé ce projet en disant que je voulais bien y passer du temps avec Dominique. Et puis, en fait, ils m'ont rapidement dit que ça ne les intéressait pas. Ils étaient à peu près tous sûrs de signer rapidement avec des labels et aucun n'a signé. D'ailleurs, vous avez vu que ces noms-là ne vous disent absolument rien. Voilà, donc je finis en disant que voilà, j'ai fait quelque chose d'assez rapide. Hein. Il manque le côté anecdote croustillante qu'on attend souvent avec le punk. Mais moi, je veux dire que j'ai été assez périphérique à tout ça. Et puis, il y a un livre qui va sortir, qui devait sortir aujourd'hui, qui est un livre qui s'appelle « Cher Punk » de Voto, et qui va, alors qui regorge, dont j'ai fait la préface. Et à côté, vous avez « Vivre, pas survivre », qui est la chronologie du punk en France, et ailleurs, d'ailleurs, de Patrice Lamar, dont j'ai fait aussi la préface. Et je parle du punk à Lyon dedans. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Miguel.
C'est Electric Callas, I Wanna Be Your Dog, qui illustre ce que disait Didier à l'instant, en 1977. Tant que peut-être Didier vient de caler pour Suzy B, ça illustre ce que tu disais. Alors c'est Electric Callas, un des trois groupes dont on a parlé tout à l'heure, qui a été filmé par Georges Ray. Donc c'est un film de Georges Ray également qui a documenté cette scène.
Merci Didier. Donc on attend la suite avec impatience tout à l'heure. On va tous rester.